I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. L'émission nous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2021. C'est l'épisode numéro 409. Je suis Patrick Béja. Et j'aimerais aujourd'hui remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, à savoir John B., Tout Kim Down, Mathieu Aubry, Régis Bourgiac, Cambrio 4 et le producteur de cette émission qui n'est pas Rémi Z, qui n'est pas Rémi W, qui n'est pas Rémi U, c'est Rémi X, le seul, l'unique. Merci à toi, Rémi, de contribuer à la production de l'émission sur patreon.com/rdvtech. Je vous le disais, je suis Patrick Béja et on a un programme hyper intéressant aujourd'hui. On va vous parler de Windows 11 que certains ont eu entre les mains grâce à un leak peut-être orchestré par Microsoft. On va en parler. On va vous parler aussi de pourquoi et comment ça a été fait et pourquoi et comment c'est Windows 11, etc., etc. On a aussi des impressions sur iOS 15. On a également un petit mea culpa sur l'histoire du foot. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ça a fait réagir à l'épisode précédent. On va en parler tout à l'heure. Et puis aussi, Twitter qui vous permettra peut-être bientôt de vous faire unmentionner. Amazon qui réduit les frais qu'ils prélèvent sur leur App Store. On a Facebook qui se lance dans le podcast. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à discuter. La Chine qui atomise le Bitcoin aussi. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai deux invités de marque, de talent et de qualité, à savoir d'une part Kassim Ketfi, dont le titre officiel est désormais depuis quelques semaines, quelques mois, le plus grand spécialiste international de Microsoft en France, c'est ça ?
Oui, comment ça va, Kassim ? Exactement, c'est le titre officiel, je l'ai fait certifier, breveté, bien sûr.
Oui, que je t'ai décerné il y a un moment déjà, et qui, je pense, se vérifie.
Je ferai une petite vidéo sur YouTube de 30 secondes pour remercier, tu vois, en courbant les chines, pour dire merci pour ce prix. Nous sommes très heureux. Voilà.
Et on a aussi celui qui, sur Discord, comme vous pouvez le voir sur Twitch, où nous diffusons l'enregistrement de cet épisode, bien sûr, comme toutes les semaines, le mardi à midi, Stéphane Leboisselier, qui est... Alors, ce n'est pas un Minitel, ton avatar, Stéphane, mais non. On n'en est pas loin. C'est quoi ?
C'est un CPC 464
Mais non, il est bleu.
CPC 464.
L'écran est bleu.
Eh bien, c'est l'écran couleur. Le fond de l'écran couleur de l'Amstrad CPC 464 était bleu, cher ami, avec l'écriture en jaune.
Je ne m'en souviens même pas. CPC 664 était pourtant exactement du même acabit, avec le lecteur de disquette en plus, à la place du lecteur de cassette. Mais oh là là, il faudra que j'aille réviser mes classiques, du coup.
Eh ouais.
Bienvenue à toi également, Stéphane. Se lancer, on va vraiment, c'est assez intéressant ce qui s'est passé avec cette histoire de Windows 11. Comme vous le savez peut-être, il y a une présentation qui aura lieu dans 2 jours. Et donc, normalement, Microsoft devrait présenter Windows 11. Et pourtant, il y a une version de Windows 11 qui a leaké il y a quelques jours. Donc, on va en parler. Vous deux l'avez utilisé. Je voudrais juste dire qu'il y a un autre débat qui fait rage en ce moment sur l'Internet français, sur la Twitterosphère, et que peut-être qu'on va en parler pour l'after show. C'est la question du vote par Internet. J'ai vu beaucoup de gens en discuter. Alors, ce n'est pas un sujet hyper d'actualité, mais je pense que ça serait un sujet intéressant à discuter dans l'after show pour les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui ont droit à des petits contenus bonus, dont celui-là, justement, et certains auditeurs pourront participer, parce que moi, je suis très, très contre le vote par Internet. Je suis très pour la technologie en général dans de nombreux domaines et je crois que dans le cas du vote par Internet, c'est une super fausse bonne idée, principalement parce qu'il n'y a pas de traçabilité papier. Et ça, c'est essentiel pour la confiance qu'on a dans le processus démocratique. Et là, c'est vraiment, c'est marrant parce que moi, je dis, et on en a déjà parlé dans l'émission, mais je suis toujours pro, enfin toujours, non, mais je pense que généralement, la technologie amène plus de bénéfices que de problèmes, même si parfois il y a beaucoup de problèmes. Et là, pour le coup, je pense que c'est un exemple d'un endroit où il faudrait se retenir plutôt que de se lancer. On en parlera peut-être dans l'after show. Je pense que ça pourrait être une discussion intéressante avec les auditeurs. Oui.
Je dois faire une petite mention rapide de début d'épisode. Si jamais je coupe en plein milieu de l'enregistrement, c'est tout à fait normal. Il y a un énorme orage qui vient de commencer au moment où tu as commencé l'enregistrement.
Ah, voilà. Je pense qu'on veut te faire taire, Kassim. Alors, exactement. Parlons de Windows 11 avant que les nanorobots 5G de Bill Gates ne viennent te couper la connexion. Windows 11, dis-moi Kassim, c'était pas censé être la dernière version de Windows, Windows 10, là je comprends plus, qu'est-ce qu'ils font chez Microsoft?
Mais tu avais cru à ces balivernes, jeune naïf que nous étions. Oui, alors bon, c'est un peu flou, c'est un peu flou l'histoire. Bon bref, on va pas revenir en détail dessus, mais oui, Windows 10 avait été vendu globalement, et Microsoft en tout cas ne l'avait jamais nié à l'époque, comme la dernière version de Windows, et surtout que Windows était désormais un service. Et là, normalement, je dois t'expliquer en quoi Windows 11 va être révolutionnaire et en quoi c'est une nouvelle version et que oui, ça casse complètement ce principe. Mais en fait, bah, j'ai pas vraiment l'impression que ça va vraiment le casser, en fait, leur promesse de Windows en tant que service. D'abord parce que je pense que ça va être une nouvelle version de Windows 10 qui dit pas son nom. Alors, il va y avoir plein de nouveautés qui font que, pour moi, peut-être ils vont être en mesure de le justifier auprès du grand public. Mais techniquement parlant, derrière, ce sera quand même une nouvelle version de Windows, une itération de Windows supplémentaire qui sera probablement gratuite.
C'est une itération de Windows 10 qui sera gratuite. C'est surtout ça qui est important, la mise à jour.
Voilà. Ouais. Et c'est exactement la même chose que quand on est passé de macOS 10 après je ne sais pas combien d'années de macOS 10 à macOS 11. C'est pas d'un coup que macOS a complètement changé de forme, tu vois.
Il n'y a pas de macOS 11, c'est macOS 10 avec des noms, mais c'est la 11 point quelque chose, ou je ne sais plus quelle est la nomenclature. Mais...
Oui, enfin voilà, on est passé à la version 11 point quelque chose, alors qu'on a eu la version 10 point quelque chose pendant je sais pas combien d'années.
T'es sûr que c'est macOS 11 point quelque chose maintenant ?
Oui, j'étais pas sûr.
D'accord, ok. D'accord.
Ça a fait beaucoup débattre quand...
Le manque de sommeil m'a fait perdre ma santé mentale et je ne pense
pas plus. Mais c'est le même. Je pense que dans la philosophie d'Apple, c'était pour marquer le passage à ARM et la refonte graphique de Big Sur. En gros, c'était pour marquer le coup, pour dire bon, c'est une nouvelle ère. Et je pense que dans le cas de Windows, c'est un peu le même schéma qui revient. C'est aussi pour marquer une nouvelle ère. L'équipe dirigeante qui s'occupait de Windows à l'époque n'est plus là. C'est Panos Panay, celui qui s'occupe des surfaces, qui s'occupe maintenant de Windows.
Et des surfaces, des ordinateurs Surface, hein, pas des surfaces chez... Oui.
il s'occupe pas de nettoyer les surfaces chez Redmond. Et je pense que du coup, il y a une volonté aussi de donner un peu un coup de boost à l'équipe de développement qui a été un peu mise de côté ces dernières années. Elle était passée sous le contrôle de l'équipe Azure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Windows n'était plus au centre des attentions de Microsoft pendant plusieurs années. Les mises à jour de Windows 10 ne ressemblaient plus à grand-chose. Et je pense que là, il y a une volonté de repartir un peu avec du sang neuf et de marquer une nouvelle ère. Alors, peut-être que tout ne prendra pas forme dans Windows 11, mais au moins, de marquer un peu un nouveau départ, quoi.
Et c'est vrai que cette version, du coup, qui a été leakée il y a quelques jours de ça, une petite semaine, donc une dizaine de jours avant la présentation de jeudi, on a des raisons de se demander si c'est pas une version leakée intentionnellement pour baisser un petit peu les attentes, parce que en gros il y a une refonte graphique qui est assez substantielle quand même, quelques éléments qui sont différents, mais dans l'ensemble c'est le fonctionnement est ici identique à celui de Windows 10. Mais du coup on peut s'arrêter un instant sur la question de la refonte graphique, dont certains, je crois, sur quand on parle entre techniciens, on a tendance à rire un peu de la question graphique et se dire « Oh, ils ont mis une couche de peinture, ils appellent ça Windows 11, ils soutent de la gueule du monde !» Alors qu'en fait, la question graphique est quand même pas du tout anodine. Et je crois que pour beaucoup d'utilisateurs, ça peut jouer. Et il faut avouer que moi, je le trouve... Dans ce qu'on en voit, c'est pas une version complète, hein, ce leak, mais dans ce qu'on en voit, c'est quand même assez agréable et c'est assez bien foutu. Alors, encore une fois, c'est pas les plus gros changements de l'histoire. Il y a beaucoup de coins arrondis. Ça, c'est le
truc. C'est une révolution.
Les coins arrondis partout. La barre des tâches, les tâches ou les icônes sont centrées. Ce qui, là, pour le coup, c'est marrant parce que je me souviens de Paul Theroth qui, à la sortie de Windows 10, Paul Theroth est un grand spécialiste de Microsoft et de Windows aux États-Unis, et il disait à la sortie de Windows 10, oui, mais en fait, il ne reste plus qu'une chose pour que Windows 10 soit l'équivalent de macOS, c'est de centrer les icônes dans la barre des tâches. Et là, ça y est, c'est fait. Donc, c'est vrai qu'on se rapproche un petit peu de la... c'est un petit peu une macOSisation de Windows, mais assez superficielle. Kassim, t'es pas d'accord ?
Non. D'accord, du coup...
Non, parce qu'il manque le Manify. Il manque le Manify quand tu passes
bien
dessus.
Bien sûr. Non, d'abord... alors d'abord, c'est plutôt une chrome-OSisation de Windows, en fait, parce que ils sont, tout ce travail vient de Windows 10X, qui était une réponse à Chrome OS, qui a été abandonné. Donc en gros... mais effectivement, évidemment, ça fait penser aussi à macOS. Alors c'est une grosse... Heureusement, on peut le reconfigurer pour que ça reparte à gauche, hein, toutes ces icônes qui sont centrées.
Ah, parce tu m'as fait peur. Quand même...
Parce que c'est quand même une erreur de design, hein, au passage. Je veux dire, c'est un des premiers trucs que tu apprends en design, c'est que les 5 endroits les plus accessibles sur un écran pour quelqu'un qui manipule une souris, c'est la souris et les 4 coins de l'écran. Puisque en fait, tu peux balancer ta souris dans un coin de ton tapis de souris, forcément le curseur va arriver dans un coin, tu vois. Le coin est infini en termes de,
oui,
de taille.
Oui, je ne vais pas lancer dans ce débat, bref, mais il y aurait des choses à dire.
Et donc c'était pas pour rien que c'était en bas à gauche, donc heureusement on peut le remettre en bas à gauche. Mais bref, tout ça pour dire que oui, après c'est pas qu'une refonte graphique. C'est pas qu'une refonte graphique du tout. Je pense qu'il y aura d'autres éléments techniques qui viendront derrière et qu'on n'a peut-être pas encore bien cerné. Il y a aussi beaucoup de choses qui avaient déjà été annoncées par Microsoft que les gens ont un peu oublié ou mis de côté. Genre, c'est pas des trucs incroyables non plus, mais c'est la possibilité d'activer automatiquement le HDR sur plein de jeux comme ils le font sur Xbox. Ça va être appliqué aussi sur les PC sous Windows. On sait qu'il y a un nouveau store qui est en préparation. On sait que...
Alors ça, tu passes dessus un peu vite, mais le nouveau store qui est en préparation, oui, c'est hyper important. Je voudrais qu'on y revienne dans un instant. Avant ça, je vais quand même demander à Stéphane. Toi, tu l'as installé... Oui, pardon, vas-y.
Non, mais c'était juste pour dire, il y a d'autres nouveautés qui arrivent. C'est pas qu'une refonte graphique. Il y aura d'autres choses. Je pense qu'il y aura une intégration de xCloud, etc. Donc... il y aura des nouveautés un peu plus tape à l'œil que juste le graphisme de la... D'accord. Même si c'est important, je suis d'accord avec toi.
Mais j'imagine qu'on sera d'accord pour dire que ça n'a pas l'air non plus d'être une refonte qu'on qualifierait de, comment dire, substantielle. Je ne veux pas dire importante, parce que importante, c'est peut-être plus difficile à définir, mais ce n'est pas une refonte substantielle de Windows 10. On reste sur Windows 10 avec des petites choses qui changent, mais ça reste Windows 10.
Oui, je pense.
Oui,
je pense que enfin, clairement,
sera... mais d'accord.
Non, mais je pensais que Stéphane allait rebondir dessus, mais je pense que c'est pour moi, ils auraient pu appeler ça Windows 10 quelque chose, ouais. Et ils ont décidé d'appeler Windows 11, donc on est dans ce niveau de nouveauté, quoi.
Mmh. Du coup, Stéphane, toi aussi, tu l'as installé, t'as fait un petit peu joujou dessus. Qu'est-ce que t'en penses comme ça à froid ? Et après, on parlera de la question du store qui est importante.
Alors moi je l'ai installé dans une VM, c'est vrai que bah du coup la bonne surprise
pour ceux qui connaissent pas.
Ouais. Déjà du coup la bonne surprise c'est qu'avec ta clé de Windows 10 Pro, tu peux l'activer sans problème. Donc ça c'est plutôt la bonne surprise. Après effectivement, hein, ce qui saute aux yeux c'est la refonte graphique. T'as aussi des nouveaux menus pendant l'installation qui sont un peu plus sympas, etc. Donc on a l'habitude, hein, avec les versions dites majeures de Windows. Moi, j'ai bien aimé le nouveau système de fenêtrage. T'as une espèce d'icône en plus sur ta fenêtre et tu peux lui dire, quand tu cliques dessus, tu peux aller lui dire, tu me le stockes milieu d'écran à gauche, milieu d'écran à droite, en haut, en bas, etc. Donc, pour réorganiser ton bureau, ça aide et c'est pas mal.
C'est en
même
fait,
s'il y avait quelques raccourcis.
Pour bien comprendre, quand on clique sur le petit bouton de maximisation, on a le choix de mettre la fenêtre en question. Au lieu de simplement la maximiser sur l'écran, on a le choix de la mettre sur une moitié de l'écran ou sur un quart de l'écran, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que c'est une petite fonctionnalité supplémentaire qui est sympathique.
L'utilisation de bureau virtuel est sympa aussi, elle est simplifiée. Alors on fait ça depuis longtemps sur macOS et sur Linux, mais sur Windows c'était pas toujours très utilisé ou évident. Du coup effectivement ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et puis voilà, après le Il y a quand même pas mal de nouveautés qu'on attend. On sait que ce leak, il n'y a pas tout. C'est un peu pour mettre... et on va revenir sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un peu pour quand même allécher les gens et avoir un peu de hype autour de la version. Il y a quand même quelques questions techniques qui se posent sur les PC antérieurs à 2016. J'ai fait quelques recherches dessus, et notamment parce que le mien est antérieur à 2016. J'attends le nouveau un jour, le jour où il y aura des cartes graphiques disponibles.
J'ai des bonnes nouvelles pour toi en fin d'émission pour ça, mais vas-y.
Ah cool. Et oui j'ai vu j'ai vu, on va en parler, mais parce que j'ai préparé l'émission quand même. Mais effectivement du coup ouais, à regarder, parce que peut-être que on va imposer pour certaines fonctionnalités, c'est pas dit encore pour tous, et là du coup j'attends un peu la présentation du 24 et les jours qui vont suivre, peut-être imposer une puce TPM2 qui est une puce de chiffrement, hein, intégrée aux cartes mères des PC, et qui a été imposée après 2016, hein, qu'on a sur Mac, etc. Et si cette puce est indispensable, à la fois pour sécuriser le boot, le disque dur, etc., on va devoir avoir un PC d'après 2016. Si vous voulez tester, savoir si vous avez une puce TPM, vous n'êtes pas au courant, je donne juste une petite astuce. Vous faites touche Windows R là, pour lancer une commande, et vous tapez tpm.msc, et ça va vous lancer la petite interface qui vous dit si vous avez un module TPM d'installer sur votre ordinateur. Ouais. Voilà, ouais. Ça vous permettra de voir si c'est le cas.
Moi, je pense que ça serait surprenant que Microsoft se coupe de tous les ordinateurs. Bon, en même temps, c'est les ordinateurs d'il y a 5 ans, Windows 10 reste dessus. Mais Windows, le problème de Microsoft, historiquement, c'est qu'ils doivent gérer les machines qui sont là depuis, je ne sais pas juste 5 ans, mais depuis 20 ans. Donc, ça serait surprenant qu'ils s'en privent. Kassim, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on parle
Juste sur cette histoire de leak, parce que du coup, je t'ai pas répondu tout à l'heure et Stéphane l'a mentionné. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit intentionnel, mais alors vraiment pas du tout. Ils ont tout fait pour garder, ils sont repassés en mode, avec le développement de Windows 10 et tout, ils étaient passés en mode, on ouvre la bêta très tôt, on présente Windows 10 très tôt pour un peu réconcilier les gens après l'échec de Windows 8. Et après l'ère de Sinofsky, qui était très dans le secret justement, sur la création de Windows 8. Et là, ils sont repassés en mode bunker où ils montrent plus rien et les insiders ont plus accès à rien depuis plus de 2 mois. Et tout ça a été complètement développé dans le secret. On avait jusqu'à cette fuite, en fait, on avait finalement quasiment aucune image de ce que donnerait ce projet Sun Valley, c'était le nom de code. Et donc, Microsoft a tout fait pour garder le secret. Et enfin, ils ont évidemment pas fait volontairement fuiter un truc à une semaine d'une conférence sur lequel ils ont tout mis leur marketing.
Gérer les attentes. Moi, je pense.
Moi, je pense pas non plus.
Je vais faire confiance au spécialiste international de Microsoft en France.
Quel est le plus probable que Microsoft et Kojima aient fait fuiter une build de Windows 11 en avance sur un forum indien une semaine avant une conférence, ou qu'ils essaient de garder le secret, honnêtement?
Moi, je pense que... Ah, qu'est-ce qui se passe? On entend... Voilà, vous entendez ce merveilleux petit son? Le son de Windows que vous entendrez. Et donc, ce son veut dire que je n'en sais rien. Mais parlons plutôt du coup... Non, mais je te fais confiance, Kassim, c'est toi le spécialiste international de Microsoft et Xbox.
Mais moi, je ne crois pas non plus, hein, parce que honnêtement, pour l'instant, elle ne me vend pas du rêve. Il y a quelques changements.
C'est exactement pour ça.
Tu vas dans la théorie du complot de Patrick.
Complètement. Parce que s'ils font leur conférence et que tout le monde se dit « Oh mon Dieu, ça va être des trucs incroyables, on va pouvoir aller sur la Lune avec Windows et tout », bah là, ils ont bien calmé les attentes. Mais du coup, il y a quand même un gros élément qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est celui du store, parce que Microsoft, Windows Produits Services, leur store était quand même bien pourri, et c'est par là que passe un certain nombre de... Enfin, que pourrait passer une bonne partie de leurs revenus, et personne n'utilise le Windows Store pour installer les trucs. Alors, naturellement, sur ordinateur, on a l'habitude de télécharger des programmes pour les installer. Mais disons qu'en plus de ça, l'expérience Windows Store est hyper n'est pas très bonne. Et donc, il est possible que l'un des éléments de cette mise à jour, ça soit le Windows Store, et que Microsoft mette en avant tout sur l'idée de faire installer les programmes aux gens par ce biais. C'est crédible, Kassim ? Tu penses qu'ils peuvent changer les choses ? Il y a aussi tout l'aspect Xbox qui, mine de rien, est important parce que l'application Xbox est particulièrement boiteuse aussi, selon la plupart des utilisateurs. Mmh. Donc, il y a vraiment cet aspect commerce dans Windows qui est compliqué aujourd'hui et qui pourrait être revu de manière significative, tu y crois ?
Bah, j'y crois je pense qu'ils sont obligés surtout. C'est-à-dire que, oui, le store est catastrophique. Le store est complètement obligatoire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'abandonner aujourd'hui dans le sens où il y a plein d'applications, même le fonctionnement interne de Windows 10, il y a plein d'applications système qui passent par le store et tu l'as dit maintenant, Xbox est branché aussi sur ce store. Donc en fait, tout ça fait que Microsoft, en gros, ne peut pas juste dire « Bon, bah Windows 11, il n'y a plus de store, on abandonne, retournez au .exe, tout va bien. » Donc ils sont obligés de le continuer. Et donc ils sont obligés, enfin pour moi oui, il faut absolument, enfin est-ce que j'y crois, j'ai envie d'y croire, j'espère qu'ils vont faire le travail parce que ce serait formidable pour l'utilisation de Windows 11 que enfin le Microsoft Store soit capable de télécharger et d'installer correctement des applications et des jeux. C'est ça qu'on demande en fait. Hein,
là, mais c'est, ça irait même plus loin, moi j'imagine, et peut-être que je me trompe, mais j'imagine une offensive dirigée, disons volontaire, alors, en disant maintenant on va vendre des trucs par le store, en plus on a baissé la comment on dit, pas la cotisation,
la commission.
La commission, merci. La commission qu'on prend sur ce store, donc maintenant il va falloir, on veut que les gens l'utilisent pour que ça soit une source de revenus.
Sérieusement, je pense que l'équipe Xbox a mis un énorme coup de pression sur l'équipe Windows et a maintenant les reins, l'équipe Xbox et les oreilles de Nadella pour foutre le coup de pression qu'il faut parce que c'est vital pour l'avenir du Game Pass sur PC que Microsoft se réveille côté Windows. Et par ailleurs, après, bon, ça c'est les jeux vidéo, donc c'est important, mais je pense que ça va être effectivement.
C'est que ça représente une énorme partie des revenus de ce type de store. Donc,
et oui, c'est l'avenir de Microsoft. Enfin, là, ils sont en train de vraiment parier beaucoup sur le jeu vidéo et il est temps de s'y mettre.
Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un des piliers de leur stratégie sur les années à venir, ça on sera d'accord.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, dans le store actuel, rien que pour retrouver les jeux disponibles dans le Game Pass, c'est,
non, mais voilà, on est d'accord.
C'est un bazar sans nom. Donc, voilà,
mais c'est pour ça qu'on pense à une autre.
Il y a toute cette partie-là à refaire. Et après, éditorialement, il y a le côté application où moi, j'espère que, c'est là où je suis un peu plus craintif, mais moi, j'espère qu'ils vont vraiment complètement lâcher les rênes, et c'est-à-dire être, entre guillemets, full YOLO sur l'autorisation des applications pour que, typiquement, un Google n'ait aucun frein à mettre Chrome sur le store. C'est-à-dire que vraiment, il faut que ce soit le même .exe qu'ils mettent sur leur site officiel. Il faut qu'ils puissent le mettre sur le store de façon complètement transparente pour que, en fait, l'objectif, il faut bien le comprendre, c'est parce que là, si on ouvre à tout le monde, on pourrait se dire oui, mais la sécurité et compagnie. Mais la sécurité et compagnie, c'est déjà un gros bordel dans le store actuel, dans la mesure où si tu cherches Chrome aujourd'hui sur le store de Windows 10, tu tombes sur des guides payants avec des fausses icônes de Google et plein de contrefaçons, quoi, globalement. Parce que le vrai n'y est pas, en fait.
Ouais.
Et du coup, au moins, voilà, permettre ce vrai acteur d'être là, voilà. Donc j'espère qu'on aura Steam, j'espère qu'on aura Chrome et compagnie, qu'ils abandonneront entre guillemets complètement l'obligation ou enfin tout ce qui est côté UWP, enfin le packaging d'app et compagnie, les SDK et machin.
Ils ont déjà peu de choses près à abandonner, mais c'est vrai que c'est pas bien mis en place encore. Bon, bah écoutez, on verra
l'intérêt
dans deux jours,
l'intérêt du store aussi, hein, c'est quand même, faut pas oublier, c'est que c'est les mises à jour automatiques des applications.
Oui.
Hein. Ça évite de retélécharger à chaque fois qu'il y a une mise à jour, etc. Moi, j'ai des applications sur Windows, il y en a certaines, tu as une mise à jour par mois, à chaque fois, il faut les retélécharger, etc. C'est casse-pied, quoi. Et, effectivement, si on veut renforcer la sécurité.
Mais si c'est les mêmes .exe, c'est ça qui est compliqué. C'est que si tu.
Et pour moi, c'est ça qu'il faut qu'ils abandonnent.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire
c'est
que
pour
si
moi,
tu mets
l'auto-update,
le même point exé, si tu mets ton Chrome, l'auto-update, il passera plus par le store. Ou alors, tu donnes une option aux gens, aux développeurs, et ça pose des questions sur la sécurité aussi. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura genre deux paramètres, mais c'est difficile à résoudre ce problème. Peut-être que Windows n'est pas la bonne plateforme pour mettre en place ce genre de store complètement sécurisé. Bon, en tout cas, on en saura un petit peu plus dans deux jours, puisque la présentation sera faite jeudi. J'imagine que on en sait déjà la plupart, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On vous en parlera la semaine prochaine.
Donc mise à jour vendredi, c'est ça ?
Mise à jour vendredi, exactement. Passons du coup, gros épisode update d'OS. La bêta d'iOS 15 est disponible depuis 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et notamment Stéphane l'a installée. Qu'est-ce que tu en penses? On va peut-être pas passer autant de temps que sur Windows 11, parce qu'on a déjà parlé d'iOS 15, évidemment, quand Apple l'a présenté. Qu'est-ce que tu en penses d'iOS 15? Dans la pratique, ça donne quoi? C'est sympa? C'est insignifiant? Dis-nous tout.
Alors moi, déjà, ce que j'adore, c'est que c'est un des invités spécialistes sécurité de l'émission qui installe toutes les bêtas. Tu vois, déjà,
voilà. Non, mais dans des VM, ça va. C'est pas...
Ouais, enfin, sauf que iOS 15, je l'ai installé sur mon iPhone, on pourrait dire de production.
Et pas très bien.
Mais bon, c'est pas grave.
Je ne te félicite pas.
Bah non, mais moi non plus, mais je suis faible. Que veux-tu, je suis faible. iOS 15, écoute, je suis agréablement surpris déjà par une chose, c'est une des premières bêtas que j'installe qui est aussi stable dès la bêta 1 et qui n'a pas... alors moi j'ai un iPhone 12, pas pro, mais qui n'a
d'ailleurs,
pas de
avez...
problème de...
Excuse-moi, je t'interromps, mais vous avez entendu ces rumeurs selon lesquelles l'iPhone 13 ne s'appellerait pas iPhone 13 pour que les gens n'achètent pas un 13? Ça paraît bizarre parce que... Les chiffres en Asie et au Japon, par exemple, le 4 et le 9, c'est pas bien du tout non plus. Ils ont quand même appelé iPhone... Ah, mais non, il n'y a pas eu de 9.
Oh et non, il n'y a pas eu de 9.
Peut-être qu'ils vont passer et à l'iPhone. Bon, bref.
Il n'y aura pas de 13.
Ouais, ah, mais ça sera pour la théorie du complot, cet épisode, Patrick.
Oui, complètement.
pardon, bon, tu as le titre de l'épisode, la théorie du complot. Du coup, écoute, oui, iOS 15, plutôt... bon, alors, c'est pas une grosse révolution non plus, on reste sur de l'évolution assez classique annuelle. J'aime pas mal la partie notif, la partie notification. Ils ont grossi les icônes, c'est tout bête, mais déjà, c'est bien. Et en fait, j'aime assez...
Et on se moquait de Windows 11. Hein.
Oui, c'est ouais, ça, exactement, là, j'allais dire. Non, mais...
Et j'aime... Non, en fait, ce que j'aime assez, c'est la possibilité de faire un résumé alors X fois par jour, c'est toi qui le détermine, de tes notifications. Donc maintenant, tu peux les grouper par app. Donc déjà, quand j'ai Discord qui sonne toutes les 3 secondes, j'ai une grosse notif qui me dit tant de choses sur Discord. Donc ça, c'est bien, hein, plutôt que de voir les 50 000 notifs. Et en plus, tu peux te faire un résumé. Alors moi, je l'ai fait 3 fois par jour. Je l'ai fait à 8 heures, à midi et à 20 heures, je crois, de tes notifs. Ça, c'est plutôt pas mal. La partie photo, j'ai bien aimé aussi. Ça te rajoute une petite musique qui essaye de correspondre un peu avec les photos, avec les photos dans les albums automatiques. C'est sympa, ça rajoute un petit côté sympa. Et la seule chose que j'ai pas eu le temps de tester, puisque je suis le seul dans mon coin à avoir iOS 15, c'est la possibilité de partager des vidéos, etc. sur FaceTime. Qui ça me paraît assez intéressant et notamment aussi la possibilité, et ça c'est pour moi une des grosses nouveautés, c'est de pouvoir créer un lien FaceTime pour que des gens qui ne sont pas sur iOS puissent rejoindre une conversation, et ça c'est plutôt cool.
Ouais, et du coup tu l'as testé ou c'est juste que tu l'as vu et tu t'es dit ça me servira un jour?
Non, je l'ai testé avec mon fils qui est sur un de mes fils qui est sur Android. Oh, et ça marche très très bien.
Un de tes fils est sur Android?
Alors, il y en a un qui a un iPhone, il y en a un qui a un Android.
T'en as un bon sur deux quand même, ça va.
Ouais. Et puis mon beau-fils qui est sur Android.
Ça, c'est la question de tes enfants préférés.
Exactement, ouais. Ah bah pour Stéphane, c'est pas dur, il peut choisir facilement.
Alors, il y en a un qui est dans la chatroom, donc on va éviter de le dire devant lui. Coucou Hugo.
Bon, je suis désolé, c'était évidemment une plaisanterie. On voit bien les points, les petits clins d'œil. Donc ça fonctionne bien. Il a simplement suivi le lien sur son navigateur et ça a ouvert une web app qui fonctionnait bien.
Ouais, exactement.
D'accord, très bien.
Exactement comme pour xCloud. Non.
Je suis curieux du comment ça s'appelle, le résumé des mises à jour, des notifications. Ça se passe comment en fait? Donc à tel moment, il t'alerte pas de tes notifications et puis à l'heure que tu as déterminée, il te fait un petit pling et il te met toutes les notifications que tu dois passer en vue, c'est ça?
Alors, si, il t'alerte quand même des notifications, mais celles que tu n'as pas consultées, il va te faire un résumé pour te dire, voilà, tu as eu ça, ça, ça et ça, etc.
Ah, donc il sait lesquelles tu as consultées en appuyant dessus quand elles sont apparues. Okay.
Et il y a un dernier truc aussi, ils ont amélioré ne pas déranger, qui est pas mal. Tu peux te créer des templates pour le travail, si tu veux juste passer du temps pour toi, pour le repos, le sport, etc. Et du coup, ça va déclencher différents scénarios pour dire, bah voilà, quand je suis au travail, j'ai les notifs que de Teams et de telle appli, par exemple, tu vois, de mes mails, etc., etc. Et ça, c'est pas mal, ça peut se déclencher automatiquement aussi.
C'est pas un peu casse-couille à mettre en place. J'ai toujours la crainte que ce genre de truc, c'est tellement pénible à paramétrer que du coup, on ne s'en sert jamais.
Ça demande un peu de temps à paramétrer. Le travail existe déjà, donc tu as juste à le customiser. Et après, tu peux vraiment faire des trucs vraiment très custom comme tu le souhaites. Voilà, faut y passer un peu de temps, mais c'est pas déplaisant. Et je suis en train de regarder pour me faire différents profils. Effectivement, du coup, et essayer de décrocher un peu du téléphone, tu vois, à certains moments de la journée.
D'accord. Ok, très bien. Donc, plutôt positif pour iOS 15. On verra si vous pourrez installer iOS 15 sur votre iPhone. Alors, comment il va s'appeler ? 13 on me dit dans la chatroom, oui, tu le fais qu'une fois, Patrick. Ça, je connais bien ces histoires. Hein, genre, tu le fais qu'une fois, c'est ce qu'on se dit au début. Et puis, au bout de quelques mois, tu dois changer les trucs. Tu as des nouvelles applications que tu dois mettre.
Ça, c'est certain. Ça.
Ouais. Tu penses que tu le fais qu'une fois. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est le foutoir partout et qu'il faut que tu t'y replonges.
Donc. Bah ouais, parce que dès que tu mets une nouvelle appli, tu vas dire, ah ouais, mais alors attends, celle-là, parce que j'aimerais bien les notifs à tel moment. Donc, tu vas. Enfin, voilà.
Forcément. Exactement. Bon. Ok, super. Eh ben, écoute, merci pour ce petit retour sur iOS 15. Avant de passer à la suite des news, j'aimerais vous faire, donc, comme je disais, un petit mea culpa. On a parlé de l'opération de rachat, enfin, d'achat d'Amazon sur les matchs de la Ligue 1 la semaine dernière. Et vous avez été... Comment le dire avec tact et... Vous avez été quelques-uns à nous signaler gentiment que nous avions peut-être quelques lacunes sur l'aspect business de ces transactions et à nous expliquer très gentiment. Non, je plaisante, mais c'est vrai que vous avez tous été, enfin tous ceux qui l'ont fait ont été très gentils et m'ont signalé qu'effectivement il y avait un aspect business qui est séparé, je pense, de l'aspect tech, mais vraiment le coût de Media Pro qui a fait monter les enchères. On l'avait mentionné très rapidement, mais on n'était pas rentré dans les détails, que j'avoue sans doute parce que moi, je ne les connaissais pas. Donc, Media Pro ayant fait monter les enchères, Canal Plus se retrouve avec seulement 2 matchs sur les 10 et Amazon a récupéré le reste. Canal Plus aurait voulu que les enchères soient refaites pour l'ensemble des matchs de la Ligue. Bref, j'ai bien compris que, et merci à tous ceux qui l'ont expliqué, vous avez été nombreux, mais notamment, je voudrais remercier spécifiquement Caradoc qui l'a fait avec beaucoup de diplomatie et de pédagogie. J'ai bien compris maintenant. Je dirais 2 choses. D'une part, je crois que dans l'ensemble, ça n'affecte pas vraiment la réflexion sur l'aspect tech qu'on avait fait, donc pour ça, peut-être qu'il y a quelques nuances à apporter, mais dans l'ensemble, je crois que ça n'affecte pas cet aspect. C'est surtout la question foot-centrique et Canal+, qui se plaint, qui a peut-être plus de raisons de se plaindre qu'on ne le disait, mais qui, ça laisse quand même Amazon en dehors de l'affaire, parce qu'eux, ils sont juste arrivés, ils ont été opportunistes, mais ce n'est pas vraiment de la faute d'Amazon. Bref, et l'autre chose que je remarque, c'est que je suis content, parce qu'il y a toujours des spécialistes de tout. Et c'est la première fois qu'on a autant de retours. C'est marrant que ça soit sur le foot, mais c'est peut-être pas si surprenant que ça. C'est la première fois qu'on a des retours sur ce point. Donc, dans l'ensemble, je dois pas trop me planter. Forcément, on doit toujours un petit peu simplifier quand on parle de sujets qui sont un peu complexes. Et les spécialistes trouveront des choses à redire. Mais généralement, on n'a pas trop de retours de ce type. Donc, j'espère que ça veut dire qu'on se plante pas trop. Je voulais le mentionner quand même sur cette histoire de foot et d'Amazon et de Canal+, parce que... J'ai eu, alors c'est marrant parce qu'il y a plein de vecteurs de communication, il y a Discord, il y a Twitter, il y a les commentaires sur le blog, il y a les commentaires sur Patreon, et tous, j'ai eu, et c'est à peine si ma mère m'a pas envoyé des SMS, mais enfin Patrick, qu'est-ce que tu racontes tu as oublié l'affaire de Media Pro, enfin. Donc, bref, c'était très drôle et merci à vous tous de vos retours très constructifs sur ce point.
Par contre, vous avez parlé rapidos de Roland Garros aussi, et je ne sais pas si vous avez regardé, mais franchement, pour une première année, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien maîtrisé, quoi.
Ouais, bah on l'a. C'était tout. On l'a mentionné, effectivement, et bon, je ne vais pas refaire la question, mais la grande question, ça va être, Roland-Garros s'était intégré à Prime Video sans supplément. Il y a peu de chances que ça soit la même chose pour les matchs de la Ligue 1, mais bon, on verra ça, je suis sûr, très bientôt.
Oui, il y a peu de chances.
Peu de chances, on est d'accord.
On est d'accord.
Je voudrais, avant de passer à la suite des événements et des news, vous dire un petit mot sur Patreon. Pour vous dire que c'est le moyen, bon, vous connaissez un Patreon, c'est vraiment le moyen de financer l'émission et que c'est le moyen de me faire vivre vraiment, c'est l'essentiel de mes revenus viennent de Patreon. Et quand je me suis lancé dans cette aventure, c'était il y a un petit moment déjà, mais c'était vraiment un pari un petit peu fou qui a fonctionné grâce à vous et qui continue à fonctionner grâce à vous, grâce aux auditeurs qui estiment que l'émission est cool et que ça vous apporte quelque chose, comme je le dis à chaque épisode. Et si c'est le cas, j'aimerais vraiment vous encourager à considérer l'idée de devenir patriote. Parce que c'est vraiment grâce à vous, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte au fur et à mesure que, je ne sais pas si on peut dire que l'émission se professionnalise, mais en tout cas qu'on est là de manière tellement régulière et on est toujours là, ça a l'air d'être une, je ne vais pas dire une grosse opération, il ne faut pas exagérer quand même, mais ça devient peut-être une routine pour certains. C'est vraiment grâce aux auditeurs qui soutiennent l'émission que je vis, c'est mes revenus. Donc je dis toujours que c'est un petit peu comme un magazine, pour ceux qui ont connu les magazines à l'époque. Bah, si vous appréciez le magazine, c'est encore mieux que les magazines parce que vous pouvez le prendre et le ramener chez vous et le lire. Et une fois que vous l'avez lu, vous pouvez décider si oui ou non ça mérite un petit euro ou deux petits euros. C'est encore moins cher qu'un magazine. Donc j'espère que vous appréciez l'émission et si c'est le cas, j'aimerais vous encourager à aller sur Patreon, c'est super simple. Vous allez sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, et vous créez un compte, vous vous abonnez, ça prend 2 minutes, et à la suite de ça, vous avez non seulement la fierté, le bonheur de devenir patriote, mais vous avez en plus des bonus sympas. Dès le premier niveau, vous avez accès par exemple au timecode pour l'émission. Vous pouvez avoir les timecodes pour les différents sujets qu'on couvre dans le flux privé. Vous avez aussi toute la pub qui est supprimée, y compris ce petit laïus au milieu, puisque vous êtes déjà patriote, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi c'est tellement cool d'être patriote. Et vous avez des petits bonus en plus, comme l'after show qu'on va enregistrer après cet épisode sur la question du vote par Internet. Et donc, tous ces petits bonus en plus, c'est des trucs qui, j'espère, justifient la somme que vous y consacrez, qui est, je pense, relativement modique pour le travail fourni. Et en plus de ça, la vraie justification, c'est le plaisir de soutenir un travail que vous appréciez. Parce que dans ce monde où la rémunération des créateurs est tellement compliquée, c'est grâce à vous que cette émission peut exister. Donc, on est vraiment dans le podcast natif qui existe dans l'univers du podcast, qui n'existe que dans l'univers du podcast et qui n'a pas d'autre moyen d'exister que par cet univers-là. Donc, je vous remercie tous de soutenir le Rendez-vous Tech, comme le dit Kassim dans la chatroom. In a world where podcasters can only count on you to buy diapers.
You. Il aurait fallu rajouter un world premiere.
Okay. Ouais, aussi, oui. World premiere, Patreon. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir le Rendez-vous Tech. Le lien est dans la note de l'émission, dans les notes de l'émission. Kling, Patrick, quand vous rentrez chez vous, toi-même, tu sais.
C'est ça, Kling Time.
C'est ça, exactement, Kling Time.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Twitter est en train de considérer une idée assez intéressante qui serait l'idée de permettre aux personnes, aux utilisateurs, de unmentionner d'une conversation. C'est quoi unmentionner ? Ça veut dire que quand vous êtes mentionné dans une conversation, eh ben vous pouvez vous-même décider de supprimer la mention de cette conversation. C'est un petit peu plus agressif que simplement le fait de rendre muet cette conversation pour plus avoir les updates. Je pense que ça pourrait être assez utile pour beaucoup d'entre nous. J'imagine que ça, c'est plus utile pour les gens qui sont qui ont beaucoup de followers, mais même pour les gens qui se retrouvent embarqués dans une conversation par une réponse à une de leurs réponses qu'ils ne pensaient pas partir dans des discussions interminables entre deux autres personnes, ça pourrait être utile. Moi, je suis pour. Vous me dites ce que vous pensez de chacun de ces news, si vous le souhaitez.
J'ai du mal à comprendre le principe. C'est-à-dire que, enfin, dans une première lecture, je me suis dit, bah oui, c'est pareil que de masquer une conversation. Et après, je me suis dit, ah non, parce que du coup, ça permet justement d'éviter que les personnes qui retweetent le tweet initial ou qui y répondent, en fait, viennent dans tes mentions, en fait, du coup, te répondent aussi à toi en même temps qu'ils répondent à la personne à de base.
Exactement. Mais du coup...
Ouais, ou d'être associé à une conversation que tu veux pas, hein. Par exemple, quelqu'un qui te mentionne en disant qu'il cautionne je ne sais pas quelle idée, tu veux pas être associé à ça, je trouve ça plutôt utile. Ouais.
Non, mais je comprends bien l'idée, mais du coup, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça dont on parle quand je lis le texte qui vient avec le message pour dire que la personne qui vous avait mentionné ne sera pas notifiée. Je vois pas comment ça peut être possible de pas notifier la personne d'origine du message si tu as décidé de ne plus faire partie des réponses, enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Ouais. Mais
C'est à voir comment ça sera implémenté. Le principe, en tout cas, est
celui-là. Que ça supprimerait vraiment le arrobas. À la limite, ça allait éditer le tweet d'origine.
Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que le arrobas ne sera plus en bleu comme un lien ou je ne sais pas, à voir. Disons que le principe, je ne suis pas contre, mais à voir comment ça sera implémenté.
Bien sûr, oui. Après, bien sûr, oui, évidemment que c'est une bonne idée vu l'utilisation de Twitter parfois.
On est d'accord. Amazon a annoncé, en tout cas, il y a une rumeur selon laquelle ils seraient en train de réduire la commission qu'ils prennent sur leur App Store de 30% à 20%. Et en plus, il y aurait des histoires de crédit Amazon Web Services en plus. Mais donc, c'est marrant parce que c'est vraiment tout ça... vient à la base du combat mené par Tim Sweeney d'Epic Game Store, enfin d'Epic, pardon, dans son combat contre Apple. Et toutes les sociétés se sont mis, toutes non, mais presque, se sont mis à réduire leurs commissions. Et autant je ne suis pas convaincu de qui a raison dans le combat avec Apple, il y a des arguments dans les deux sens, autant il est indéniable que c'est par la simple volonté de Tim Sweeney que tous ces App Store, alors on a... Il y a un moment, Steam qui l'a fait pour les gros vendeurs, et puis Apple l'a fait pour les plus petits vendeurs, et puis Amazon a suivi, et puis, Google a suivi, et Amazon est en train de suivre, enfin, Microsoft, pardon, a suivi. C'est impressionnant de voir à quel point il a eu un effet.
Oui, donc clairement, et puis bon, après, je pense qu'on peut, indépendamment du procès ou de savoir qui a raison ou qui a tort, au niveau où en sont les entreprises, surtout ces stores-là, que ce soit Amazon, Google, Microsoft ou Apple, je pense qu'ils ont l'argent pour se permettre de couper de 30% à juste 20 ou 10% leur commission sur chaque jeu ou application vendue. Ça ira.
Et dans le cas d'Amazon... sur l'Amazon App Store, il y a des applis.
Écoute, certainement, il y en a quelques-unes. Non, mais Amazon est
quand même... toutes les tablettes Amazon, Amazon Fire TV, dès que tu t'abonnes à Netflix par une clé HDMI Amazon que tu as achetée sur Amazon.
Je suis d'accord, j'ai deux tablettes Fire à la maison et la première chose qu'on a fait, c'est installer le Google Store.
Non, mais.
Bien sûr. Mais bon, disons que ça soit un gros revenu ou non, c'est intéressant de voir que le store réduit ça. Et ce n'est pas une rumeur, hein, ils l'ont effectivement annoncé. Ils passent de 30 à 20% pour les développeurs qui gagnent moins d'1 million de revenus par an. Et c'était les mêmes chiffres plus ou moins pour Apple, sauf qu'ils passaient à 15% au lieu de 20%. Mais il y a aussi l'histoire des crédits Amazon Web Services qui viennent changer un peu la donne. Mais c'est toujours pour les apps qui ramènent moins d'argent que les autres. Mais au-delà de savoir si Amazon est très utilisé ou pas pour son App Store, c'est une tendance de l'industrie qui est intéressante à noter. C'est plus les seuls, quoi.
Oui, 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 ça c'est sûr.
D'ailleurs, en parlant d'Amazon, il semble que Luna, le service de streaming de jeux vidéo d'Amazon, est en train d'arriver... est en train de sortir de bêta. Il est disponible ou bientôt disponible. C'est le 21 juin, je crois, qui sera disponible dans certains pays. C'est ça. et je crois que la France fait partie. Alors moi, en Finlande, je ris de voir que c'est disponible en France et pas en Finlande. Mais je crois que la France fait partie des pays où ça sera disponible.
Eh ben non.
Eh ben pas
oui,
du tout.
Oui, je crois pas.
Hey, et pas du tout, parce que je suis allé voir pas plus tard que ce matin en me disant tiens, mais c'est bizarre parce que j'avais fait la demande
ils
d'accès
annoncé
anticipé.
La France pourtant.
Et en fait, encore ce matin, tu as not available in your country.
Ça ne devrait pas tarder.
Mais sur l'histoire de. Enfin, ça va avec. C'est sur l'histoire des stores justement par rapport à Amazon Luna. Je me demande. Si un fabricant, et du coup lequel, serait le premier à casser les fabricants de consoles, à casser la règle des 70-30 justement dans les jeux vidéo. C'est un sujet annexe par rapport aux applications, mais comme tu le dis, c'est un mouvement de fond dans l'industrie de changer cette commission, et du coup je me demande si ça pourrait arriver. Je sais que le marché des consoles est très différent et que le business model est différent, etc., mais je me demande si ça pourrait finir par arriver aussi sur les consoles de jeux. Et qui serait le premier à mettre un peu ce coup de séisme, justement, et les autres seraient obligés de suivre dans la foulée, quoi.
Qui serait le premier ? On imagine bien qui serait le premier. Ça serait a priori Microsoft, mais qui avait d'ailleurs pensé à ça, puisqu'ils l'ont fait sur PC et qu'ils ont abandonné l'idée sur console. Mais...
Oui, mais finalement, ils pourraient ne pas le faire et ça pourrait être PC. Enfin, tu vois, il y a toujours des...
Oui, possible. Un outsider comme Stadia.
C'est un tout autre débat, mais en tout cas, ça sera intéressant aussi à voir sur si ce marché va pouvoir être touché aussi par ça, quoi. Mais bon.
Justement, en parlant de mouvement de fond, il y a des rumeurs venues de l'APK du Google Play Store qui semble indiquer que Google serait en train de travailler sur un réseau Find My, comme celui d'Apple. Pour rappel, c'est un réseau qui mesh tous les appareils Apple pour créer une sorte d'Internet dans l'Internet, qui permet, même pas d'Internet d'ailleurs, d'Internet ailleurs à l'Internet ou de réseau extérieur à l'Internet entre tous les appareils Apple pour vous permettre de retrouver vos objets si vous en avez perdu un, enfin un objet connecté, un téléphone, ce genre de choses, ou les petites pastilles, comment ils s'appellent déjà,
Les AirTags,
voilà, c'est ça. Et si elle est à côté d'un téléphone Apple ou d'un ordinateur Apple, et étant donné qu'il y en a beaucoup, c'est très possible, à moins que vous viviez dans la forêt comme moi, il indiquera sa localisation à votre compte Apple pour que vous puissiez le trouver. Évidemment, c'est une idée séduisante, et Google est en train de travailler sur un réseau similaire, si on en croit leur APK, leur application, enfin leur application.
En gros, c'est les fichiers de l'application. Il y a des chaînes de caractères un peu cachées dedans sur la version bêta qui pointent vers ça. Ça veut dire qu'ils y travaillent dessus. Ça veut pas dire que ça va sortir. Est-ce que ça restera à l'état de projet ?
Des chaînes de noms qui disent, par exemple, device network, find device network description, find device, ensuite qui dit find my device network, allow your phone to locate your other app, your and other people's devices. Donc c'est exactement la même chose. Moi, je pense que c'est un avantage qui est suffisamment important pour que. Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, en fait, chez Google. La grande question, ça sera, est-ce qu'un jour, ils rendront les deux réseaux compatibles pour les étendre encore ? Lol. Ça me paraît pas totalement impossible. Tu sais, il n'y a pas vraiment de désavantage au fait de se dire, écoutez, vous avez votre réseau, on a notre réseau, autant les rendre compatibles. Tant que les protocoles sont bien établis, ça étend énormément la portée des réseaux. Et peut-être, moi, peut-être. Je pense. Enfin bon, on n'y est pas
peut-être.
Encore.
Peut-être que je suis médisant.
Et d'ailleurs, Kassim, je ne sais pas si tu es au courant, mais du coup, Apple va implémenter Chromecast aussi sur les Apple TV.
Non, non, mais ce n'est pas la même chose. C'est vraiment pas. Tu sais, ils travaillent.
C'est avant ou après l'arrivée d'iMessage sur Android.
Bon, très bien. Moi, écoutez, je vais aller encore plus loin. Peut-être qu'un jour, ce réseau sera utilisé pour d'autres choses que simplement localiser les appareils. Peut-être comme un Internet alternatif régi par Apple et Google le jour où Apple aura racheté Google.
La bonne
Alphabet.
Idée.
D'ailleurs, à propos de Google, il y a un rapport très intéressant du New York Times sur... Sundar Pichai, le président de Google, et on dit depuis quelques mois, peut-être quelques années, que Google semble être un petit peu en manque de dynamisme. Et alors, bien sûr, c'est toujours délicat de prendre les témoignages de quelques employés et d'en tirer des conclusions sur l'avis de l'ensemble des employés, parce qu'on peut toujours trouver des gens qui ne sont pas contents. Mais... ça semble s'inscrire dans suffisamment de différents éléments pour se dire qu'il y a du vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Sundar Pichai la joue très safe. Il met énormément de temps à se décider pour beaucoup de choses. Et pendant ce temps, Google, qui va très bien aujourd'hui, est en train de perdre des opportunités et risque de se faire dépasser dans les années à venir. Il y a un vrai danger dans le style de management de Sundar Pichai, qui est trop sage, qui a été très utile jusqu'à maintenant. Mais en gros, les gens sont inquiets pour Alphabet. Enfin, certains des vice-présidents, ce n'est pas juste des employés du bas de la chaîne, hein, c'est des gens qui sont en haut du truc, qui pointent du doigt une série de problématiques significatives dans le management de Sundar Pichai. J'en aurais pas parlé, si ce n'est... que je trouve que ça résonne avec un sentiment que je ressens et que je pense que d'autres ressentent aussi.
Je pense que dans les vice-présidents, il y a un certain P. Harrison qui a voulu rester anonyme, mais qui est peut-être inquiet pour l'avenir de sa branche. Mais moi, je pense que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça reflète quelque chose que nous-mêmes, on perçoit un peu à l'extérieur quand même. C'est-à-dire que Google fait plein de choses intéressantes. Tu peux pas dire que Google genre est mort ou que Google va mal,
du
ou
tout.
Que Google est condamné. Mais ils sont pas super excitants en ce moment, quoi. Tu vois, comparé à ce que fait Apple, même en termes de produits, avec leur bouleversement avec Apple Silicon sur les PC portables, ou ce que fait Microsoft avec le cloud gaming, ou ce que fait d'autres boîtes avec Facebook avec la réalité virtuelle, je trouve que Google a pas. Enfin, ils ont plein de trucs, hein. Ils ont la voiture autonome et tout ça, mais c'est pas des trucs, c'est des trucs vieux déjà, et puis c'est qu'ils ont en projet depuis très longtemps. Et il n'y a pas de trucs ultra excitants, je trouve, en ce moment chez Google. C'est un peu same old, et juste ils font bien leur, enfin ils évoluent lentement mais sûrement, mais il n'y a pas le gros truc, quoi. Il n'y a pas le next big thing, et il y a pas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas leur nouvelle initiative incroyable. Et quand tu vois en plus le manque de, je finis sur ça, le manque d'investissement sur ces nouvelles initiatives, genre Stadia justement, qu'ils abandonnent, enfin ils l'ont pas abandonné, mais voilà, qu'ils essayent mais sans vraiment essayer. Et je trouve que c'est un peu, enfin ça pourrait être significatif de quelqu'un qui la joue safe et qui ose pas aller mettre les billets sur une nouvelle table, quoi, en gros.
Les hésitations sur le cloud aussi, hein,
ouais, bien sûr.
Entre Azure et AWS. GCP a été à la ramasse pendant très très longtemps. Ils rattrapent petit à petit leur retard. Et là, on commence enfin à voir émerger un peu de GCP, moi, dans mon activité quotidienne en termes de sécu, etc. Mais enfin, jusqu'à il y a un an et demi, on n'entendait pas parler de GCP. Hein. Et Google avait un retard phénoménal par rapport à Azure et AWS. Donc oui, ils sont peut-être un peu trop sages.
Je crois qu'il ne serait pas... Alors, il a de grandes qualités, hein, Sundar Pichai. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a que des problèmes. Il a joué très safe et il a bien navigué les problématiques, notamment politiques, aux États-Unis. Mais,
la transformation de Google aussi.
Ouais. Oui, complètement. Il faut pas oublier que quand il a repris les rênes, Google était très différent de ce qu'ils sont aujourd'hui, enfin Alphabet. Mais je ne serais pas surpris, on va dire, que d'ici un ou deux ans, le board demande gentiment à M. Pichai de quitter son poste et qu'il le remplace par quelqu'un d'autre. Ça ne me surprendrait pas, on va dire. Quoi d'autre au niveau des podcasts, on a toute une série de news. Netflix, alors on a déjà eu des rumeurs, mais on a beaucoup plus de rumeurs encore sur la possibilité que Netflix s'attaque aux podcasts, entre autres, également des jeux vidéo et du merchandising, etc. Mais on a Spotify qui a lancé une application qui est un petit peu l'équivalent de Clubhouse, avec la possibilité pour les animateurs de lancer des chambres de discussion dans lesquelles n'importe qui peut rentrer. C'est un petit peu du streaming audio, hein, Clubhouse, c'est un peu la même chose là. Sauf qu'on peut directement transformer ces sessions en podcast, Spotify oblige. On a également Facebook qui est en train de lancer sa section podcast aussi. Donc c'est vraiment l'ébullition dans le monde du podcast est significative. Et puis il y a d'autres choses qui se passent chez Facebook. On n'est pas forcément obligé de rentrer dans ces détails-là, mais le podcast est un média qui non seulement a le vent en poupe, mais qui est en plus en train d'être adopté par à peu près tous les grands les grandes sociétés de ce monde. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le média. Je crois qu'on a tendance à se dire « Ah, ça y est, c'est fini, le vrai podcast indépendant est en train de mourir. »
L'artisanat.
Ouais, l'artisanat, voilà, certains retiennent les qualifications que je donne. Mais je ne sais pas vraiment quoi en penser, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je pense que le podcast est vraiment un média qui, techniquement, a des spécificités qui font que je ne suis pas convaincu que ça peut être bouffé par les gros. Mais alors, si c'est le cas, je suis dans la merde. Mais je sais pas. Je regarde ça avec intérêt. Il y a un ou deux ans, je vous aurais dit encore non, mais c'est bon, pas de problème. Là, je me dis suivons ça. Peut-être qu'il va falloir s'adapter, quoi. Et quand je dis s'adapter, ça veut dire être présent sur les plateformes et faire le travail nécessaire pour avoir des relations avec tout le monde et être présent partout, là où avant il suffisait de faire son flux RSS et roule-poupoule, t'étais sur toutes les applications, quoi.
Tant que t'es pas dans la plateforme qui vient t'imposer de la pub, qui va couper ton podcast, qui va saper ton travail que t'as essayé d'effectuer, tant que ça casse pas ton modèle économique entre guillemets, ça va. Ce genre de plateforme, qu'est-ce que ça peut apporter ? Pour moi, c'est juste le fait de faire connaître le podcast à plus de monde. Aujourd'hui, on reste quand même un marché de niche sur le podcast. Et
je pense pas qu'il y a plus de monde qui le connaît. De niche, hein, mais...
Moi, tu sais, même dans mon entourage, qui est pourtant un entourage tech, il y a quand même peu de gens qui écoutent régulièrement des podcasts. Mmh,
peut-être.
Et du coup, si ça permet d'avoir une plus grande audience par la suite, parce que les gens vont, une fois qu'ils vont découvrir le média, ils vont faire le tri, ils vont trouver les trucs qui les intéressent vraiment. Voilà, pour moi, il n'y a pas nécessairement de mal. Après, il faut garder un œil, effectivement.
Il y a des gens qui me posent souvent la question, qui écoutent des podcasts sur Spotify et qui me disent « Ah, mais j'ai de la pub sur les podcasts, est-ce que tu touches de l'argent sur la pub sur les podcasts Spotify ?» Alors, je vous le confirme, non. Spotify rémunère les artistes, pas les podcasteurs, en tout cas pas par la pub que eux mettent dans les podcasts. La pub qui est dans le flux public, qui est intégrée et que je lis moi ou qui est intégrée par Acast avec le petit jingle, bref, vous savez que j'ai des pubs pour le flux public, ça oui, mais si vous écoutez sur Spotify et qu'il y a des pubs Spotify, Spotify ne rémunère pas les podcasteurs. Ce qui est bon, on pourrait en débattre aussi. Par ailleurs, mais ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et donc, non, l'argent des pubs Spotify, il ne va pas aux podcasteurs. C'est pour ça qu'ils poussent tellement les podcasts. C'est pour avoir un truc à eux, quoi. Bon, on va en débattre plus longtemps. Un truc qui m'a fait sourire, c'est l'information essentielle que Mark Zuckerberg est sorti des 100 présidents les mieux notés sur Glassdoor, qui est une société qui fait des classements de sociétés. En fait, c'est un service qui fait des classements de sociétés, un petit peu genre à la LinkedIn, cette société. Si vous voulez savoir comment ça se passe chez eux, vous allez sur Glassdoor, vous cherchez la société, vous avez des infos d'employés de la société. Et l'un de leurs classements, c'est les CEO, les présidents les plus appréciés.
C'est même une plateforme de recherche d'emploi, en fait. Hein.
Voilà.
Et... c'est vraiment un concurrent de LinkedIn.
Bon, oui, on peut dire ça comme ça. Et donc, Zuckerberg est sorti du top 100. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, même quand t'es tout en haut, il y a quand même un truc, genre, nous, en bas, on se dit, oh, est-ce que mon tweet a eu plus de 10 likes aujourd'hui ? Est-ce que ma photo Instagram a provoqué des commentaires ou pas ? Et bien, même les CEO de la Silicon Valley et des GAFAM, ils ont cette liste, genre, est-ce que je suis dans le top 100 des présidents de la liste de Glassdoor ? Bon, j'imagine que ce n'est pas non plus quelque chose qui les traumatise. Hein. Ils se mettent à s'essuyer leurs larmes avec leur billet de $100, en fait, c'est ça. C'est genre, oh, j'ai quitté le top 100. Mais ça m'a fait rire quand même. Tu n'échappes jamais à le renforcement de tes idées par Internet et la compétition sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas y échapper. Ça m'a fait marre. Tac, tac, tac. Quoi d'autre ? La Chine. Est-ce que vous avez vu cette histoire de la Chine qui s'attaque pas au Bitcoin directement, mais quand même aux mineurs de Bitcoin dans différentes provinces, notamment dans la province du Sichuan. Vous avez vu ça ou pas ? Vous en avez entendu parler ?
Oui, bon, c'est tant mieux, on va avoir des cartes.
Pardon. Oui, c'est vrai que oui, on va avoir des cartes graphiques, mais même ce matin encore, le cours a encore pris. Le cours du Bitcoin a encore. C'est encore. Ça fait une belle chute encore.
Ouais.
Et on va dire autre chose.
J'ai pas vu le cours ce matin, mais ça me surprend pas tellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Chine s'est attaquée aux mineurs. On le sait, il y avait beaucoup, beaucoup de mineurs de Bitcoin en Chine. Et depuis quelques jours, quelques semaines, le gouvernement, à différentes échelles du gouvernement, plus ou moins locales, s'est mise à envoyer des notices aux sociétés qui minent le Bitcoin. Et dans la province spécifiquement du Sichuan, qui est particulièrement propice au minage parce qu'ils ont beaucoup d'électricité verte, bon marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de mineurs qui consomment énormément d'électricité. Et le gouvernement est allé voir les fournisseurs d'électricité. Ils ont identifié les sociétés qui, selon elles, minaient du Bitcoin. Ça ne doit pas être très difficile à identifier parce que les pics de consommation font... multiplié par 450. Ok, il y a un truc bizarre là par rapport aux maisons d'à côté. Et donc, ils ont coupé l'électricité directe d'une bonne partie de ces mineurs. On parle de 90% de la capacité de minage en Chine qui a été atomisée. Donc, ça représente environ un peu moins d'un tiers de la capacité mondiale totale de minage. Alors, je suis sûr que ça a des conséquences sur l'écosystème du minage de Bitcoin, évidemment. Bon, il est résilient, mais ça change quantité de pouvoir qu'ont certaines entités sur le réseau dans son ensemble. J'imagine que ça ne le menace pas encore, mais c'est intéressant à noter tout de même. Et puis, en Chine, ils commencent... Alors, c'est pour ne pas faire de concurrence à leur yuan digital. Il y a plein d'éléments comme ça politiques à prendre en compte. Mais les mineurs en Chine disent maintenant, il faut qu'on aille ailleurs. Il faut qu'on fasse autre chose parce que la fête est clairement finie ici. Et comme je le disais, c'est un tiers de la capacité mondiale de minage. Donc, ça a forcément des conséquences. Et sur le Bitcoin dans son ensemble et... Stéphane est heureux de l'apprendre et de le confirmer. Ça veut dire que les cartes graphiques qui sont utilisées pour miner les bitcoins perdent en valeur parce qu'elles sont moins recherchées et donc peut-être qu'elles seront enfin disponibles pour les gens qui veulent les utiliser pour jouer comme elles sont prévues à la base.
C'est ça, parce qu'en plus, ça avait fait grimper les prix. Là, quand tu vois les top achats LDLC matériel.net, quand ils ont du stock, c'est de la 3070 ou 3080 Ti à des prix mais hallucinants. Donc peut-être que ça va revenir rationaliser, aider à rationaliser un petit peu le marché, puisqu'ils sautaient sur toutes les nouvelles 3080, parce que c'est hyper efficace sur le minage. Et je t'avoue que moi, miner pour acheter ma prochaine carte graphique avec ma 1060, ça va être compliqué, quoi.
Bon, espérons que ça, au moins dans un... C'est le moment, quoi. Dans les prochains jours, peut-être que le cours va chuter. Je voulais aussi parler de notre ami Tim Berners-Lee. Et on parle de Bitcoin, on n'est jamais loin des NFT. Tim Berners-Lee a mis en vente en NFT son le code. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Tim Berners-Lee est l'inventeur du World Wide Web, qui était un projet qu'il a fait au CERN dans les années 90. Il a écrit le code du World Wide Web. Avant ça, il n'y avait pas de web. L'Internet, c'était que du texte, en fait, à peu de choses près. Et c'est lui qui a inventé le web. Et il a mis en vente, en NFT, son code source. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de l'avoir ? Le code source, il est disponible publiquement. Il y a des petits bonus, genre une lettre spéciale qu'il a écrite pour vous, etc. C'est un truc qui est mis en vente par c'est Christie's ou un grand organisme de mise en vente. Et ça va être aux enchères pendant quelques semaines. Bon, il n'a jamais eu d'argent directement, Tim Berners-Lee. Évidemment, il est connu, il a fait des conférences, machin, donc il a eu un petit peu de sous. Mais c'est marrant de se dire que voilà, il va pouvoir, pour la première fois, directement faire de l'argent avec son invention, alors qu'il l'a donné librement pour créer cette révolution du web il y a 30 ans de ça. Je vois que ça ne vous intéresse pas très bien. L'histoire du web ne vous fait ni chaud ni froid. Peut-être que du coup, ces gentilles demandes que font les États que font les États-Unis et l'Europe à la Russie d'éviter les attaques Internet informatiques sur les infrastructures essentielles, vous parlerons un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le président Biden a demandé à Vladimir Poutine d'établir une sorte de liste d'infrastructures qui étaient interdites dans les attaques, cyber-attaques. Et la France et l'Union européenne a aussi demandé à la Russie de collaborer avec les enquêtes pour arrêter les cybercriminels. Est-ce que ça va donner quelque chose ? On est peut-être en droit d'en douter, mais c'est intéressant de voir que ça commence à atteindre un niveau où les présidents des plus grandes nations du monde sont en train de discuter pour dire « Ok, un petit peu comme on le fait, je ne sais pas, c'est une sorte de convention de Genève du cyberespace, pour dire, et on rigole, mais ce n'est pas rigolo, il y a des infrastructures évidemment essentielles qui peuvent causer des dégâts immenses et très concrets à un pays. » Et peut-être qu'il est important et nécessaire de se dire il faudrait qu'on établisse une convention pour faire en sorte que que ça soit interdit, qu'on se dise « Ok, on ne va pas se lancer dans ce type d'attaque ». Je ne suis pas convaincu que Vladimir Poutine ait intérêt à dire « Ok » sans demander quelque chose en échange, mais le fait peut-être que la discussion commence est peut-être une bonne chose. Je ne sais pas.
Ouais.
C'est une bonne façon de le résumer.
Hein, on est d'accord, Kassim. Écoute, bon, après, moi, si on a encore une petite heure devant nous, je peux en parler si tu veux, mais non, mais bon, grosso modo,
Il faut rappeler, tu l'as dit, mais c'est ton métier, hein, la sécurité informatique.
Oui, voilà, c'est mon métier. Il y en a quelques-uns dans la chatroom et qui nous écoutent qui le savent, effectivement. Et bon, clairement, on sait qu'il y a des attaques qui sont étatiques. Donc, contre ce type d'attaque, se dire, allez, les gars, on fait un pacte de non-agression, why not? Mais j'y crois pas non plus, parce que c'est pas du tout dans l'intérêt des États. Et aujourd'hui, la guerre, elle est autant numérique que sur le terrain. Donc, je suis pas tout à fait d'accord. Qu'après, il y a une coopération pour arrêter les cybercriminels, oui, à condition qu'ils ne soient pas à la solde de l'État. Voilà, donc là, ça pose encore d'autres problèmes. Et parfois, on sait que sur la Russie, la Chine, l'Israël, etc., c'est un petit peu compliqué. Moi, je préfère la démarche qu'on a eue en France. Et alors, je n'ai pas tellement connaissance de ça aux États-Unis. Et peut-être que certains me reprendront parce que je suis un peu moins au fait là-dessus. Mais en France, on a plutôt pris le parti de dire on va identifier, nous, les organismes d'importance vitaux, qu'on appelle des OIV en France, qui sont encadrés dans le cadre de la loi de programmation militaire, qui sont des organismes qui sont effectivement déclarés utiles et indispensables pour le bon fonctionnement du pays. Donc c'est les distributeurs, alors certains hôpitaux, mais pas tous, il faut qu'ils aient un SAMU, et il faut qu'ils aient des urgences. Il y a les distributeurs d'électricité, les distributeurs d'eau potable, etc. Et puis nous on a ça en France depuis les années quasiment les années 70, hein. On est parmi les premiers pays à avoir lancé ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour une fois, la Commission européenne s'est dit waouh, c'est pas mal ce qu'ils font en France, et donc on va essayer de faire l'équivalent. Et en équivalent européen, tu as la directive NIS pour Network Information Security, qui va, elle, donner des titres qu'on appelle des OSE. Les OSE, c'est les organismes, les opérateurs de services essentiels. Donc c'est un petit peu plus large que les OIV français, mais là, du coup, on a certains hôpitaux qui deviennent OSE de par la directive européenne. On a différentes entreprises.
Dis-nous ce que ça implique, parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ça veut dire qu'ils ont des infrastructures strictement contrôlées ?
Alors, effectivement, ils ont le devoir. Et alors après, le problème reste le financement, mais ils ont le devoir de renforcer leurs infrastructures, de se faire accompagner par des spécialistes en cybersécurité. Ils peuvent être aussi accompagnés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, sur certaines parties. Et potentiellement, dans la directive NIS, pour l'instant c'est encore un peu flou, mais dans le cadre de la loi de programmation militaire, ils peuvent même être soumis à amende s'ils n'ont pas respecté les critères de sécurité énoncés par la loi. D'accord. Donc tout ça pour essayer de renforcer et de dire que effectivement ces organismes qui sont essentiels pour le pays doivent renforcer leur sécurité parce que pour pouvoir réagir en cas d'attaque, d'accord, et pouvoir endiguer les attaques. Donc je préfère cette approche de dire on va protéger nos actifs essentiels plutôt que de faire confiance à dire non mais vous inquiétez pas.
Je pense que les deux sont pas incompatibles. Clairement, il pourrait y avoir, parce que pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable,
ah ça y est, c'est parti.
Non, mais c'est à dire que effectivement, il y a une sorte de laisser-faire en Russie et sans doute de financement par l'État d'organisations qui peuvent lancer ce genre d'attaque, mais le pays lui-même n'est pas immunisé contre les attaques des divisions informatiques des États-Unis ou de l'Union européenne, par exemple. On peut tout à fait imaginer que Vladimir Poutine, malgré sa bravado, puisse être inquiété de se dire si jamais les choses ne se passent pas bien et qu'on commence à attaquer des infrastructures chez nous, qui sont sans doute moins bien protégés que celles de l'Europe ou même des États-Unis, eh bien, oui, on est dans un État qui est en train de se diriger vers le totalitarisme, mais il n'empêche que ça peut provoquer des problèmes aussi, et justement remettre en question sa légitimité. Donc, peut-être qu'il a aussi intérêt à discuter, peut-être en obtenant quelque chose des États en question, pour avoir une feuille de route qui va dire bah ok, alors peut-être pas les hôpitaux, mais je sais pas, les centrales électriques, la distribution d'eau potable, on n'y touche pas. Je me dis que c'est peut-être possible.
On parle quand même de quelqu'un qui voulait se dédouaner complètement d'Internet et avoir son propre Internet et qui aujourd'hui est capable de se scinder et d'être...
C'est deux choses différentes. Ça, c'est pour contrôler l'information à l'intérieur du pays. Ça n'empêche pas que des attaques de l'extérieur puissent être implémentées. Quand on parle d'attaques étatiques, si on dit la Russie pourrait attaquer les centrales électriques en France, par exemple, la France ou l'Europe ou les États-Unis pourraient attaquer les centrales électriques en Russie. Donc, je crois qu'il n'y a pas... Oui, c'est un peu facile de se dire il ne va rien faire, il va nous rironner. Je ne suis pas convaincu que ça soit aussi simple que ça. Il va sans doute demander quelque chose en échange, mais peut-être que ça pourrait donner quelque chose. Et puis, il faut lancer les discussions. C'est tout le problème de la diplomatie. Il faut lancer les discussions, même si on a peu d'espoir que ça arrive.
Ce que j'allais dire là, pour le coup, et j'allais te donner raison, du coup, enfin, en partie,
sur le fait que... Écoute, Kassim, vas-y, dis-nous
ce que tu peux pas faire ça, Kassim.
Je parlais à Stéphane, évidemment. Non, pour dire que... de toute façon, même si c'est pour nous faire nourrir au nez, c'est pas pour autant que c'était une mauvaise idée de le faire. C'est important aussi des fois de marquer des trucs. Le symbolique est aussi important des fois, en fait.
Ouais.
Oui, puis après, on pourra toujours lui dire, regardez, on lui avait demandé, il nous a rigolé. On a essayé, quoi.
Et puis sa réponse était très, non-committal. Il n'a pas pris beaucoup d'engagement. Il a dit, nous allons faire une commission pour étudier le problème. Ok, bon. C'est mieux que rien. Très bien, mais écoutez, c'était un épisode absolument passionnant. Merci à tous les deux d'avoir participé. Je suis ravi d'avoir eu vos retours d'expérience sur Windows 11 et iOS 15 et toutes ces autres versions chiffrées de différentes choses. Avant de se quitter, évidemment, je vais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par, est-ce que je le dis encore une fois ? Oui, le plus grand spécialiste international de Microsoft et de Xbox en France, Kassim Ketfi. Dis-nous tout, où peut-on te retrouver ?
Je vais rougir. oui, on peut me retrouver sur Twitter, @notkassim, N-O-T-C-A-2-S-I-M, et surtout, si vous voulez tout savoir sur Windows 11 dès qu'il sera annoncé, vous pouvez nous suivre sur frandroid.com, on va en parler, et on sera aussi en live sur Twitch, car nous sommes en live sur Twitch désormais, quand il y a des gros événements comme ça.
frandroid.com pour ça, et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Stéphane Amstrad CPC 464, clairement un jeune homme qui a commencé modestement, qui n'avait qu'un lecteur de cassette dans son Amstrad, alors que moi
qui était même pas au collège, quand je l'ai eu, Patrick, voyons.
Oui,
j'ai eu 628 après.
Ah d'accord, ok, très bien. Tu remontes dans mon estime bourgeoise, parce que moi j'avais un 664.
Puis l'Amiga 500, tu vois.
Alors écoute, voilà, moi j'ai eu un 664. J'ai pas eu de 6128 parce que quand même c'était j'avais déjà le lecteur de disquette, mais j'ai eu aussi un Amiga, donc nous sommes un petit peu frères d'informatique, Team Amiga. On se retrouve
Team Amiga aussi.
Les villes Amstrad CPC et Kassim également, pardon, contre les villes, qu'est-ce que je raconte, les villes Atari ST. La guerre des consoles et des machines ne date pas d'hier, mais donc
non.
Mon ami, où te retrouve-t-on?
Alors, Atel B. Stéphane sur Twitter, et après, vous me retrouvez, alors en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec le boulot, mais dans l'émission Beats sur Studio Renegade, avec, avec Cédric Deluca et Crix33 qui est dans la chatroom, notamment. Et puis, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger et que vous êtes passionné d'impression 3D, j'ai toujours ma chaîne Révolution 3D qui existe, voilà.
Très bien, et comme toujours, le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, avant que je vous dise où on se retrouve, n'oubliez pas qu'il y a l'after show qui arrive dans une minute pour ceux qui sont patriotes. Donc, si vous êtes patriote, vous pouvez écouter sur le flux privé et vous aurez tous les contenus bonus, y compris donc l'after show en fin d'épisode. Mais si vous n'êtes pas patriote, et ben vous pouvez me retrouver sur patreon.com/rdvtech pour devenir patriote, et sur NotePatrick sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et vous pouvez également retrouver les émissions sur NotePatrick.com. Alors, il y a évidemment le rendez-vous tech, mais pas que. Il y a aussi le rendez-vous jeu, où on parle de jeux vidéo toutes les semaines. Et il y a aussi Super Laser Punch, où on parle de tout ce qui a trait à l'univers Marvel MCU, et donc notamment les séries du moment, comme Loki, qui est une excellente série que je vous recommande très chaleureusement, dont le troisième épisode arrive là, incessamment, sous peu, demain, et qu'on décortiquera avec mon ami Johan dans l'épisode à venir, sans doute enregistré vendredi. Donc, si vous en voulez un petit peu plus pour votre fanitude du MCU, et ben c'est Super Laser Punch qu'il faut aller écouter. Merci à tous, rendez-vous dans une seconde pour ceux qui sont patriotes, et à tous les autres, je dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.